Sur ma route, sur RTVFM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Eh bien, bonjour à tous et toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sur ma route sur RTVFM. Je rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Dans cette émission, on a abordé comme sujet la vitesse, l'alcool au volant et aujourd'hui, on va consacrer l'émission sur les jeunes au volant. Avec nous pour en parler, aujourd'hui, on est avec deux Philippe. Le premier Philippe, il s'appelle Philippe Henry. Bonjour.
Bonjour Théo.
Vous êtes consultant et formateur sur Avignon, hein, c'est bien ça?
Tout à fait, j'ai travaillé 20 ans en institution et aujourd'hui je parcours la France, j'ai envie de dire, sur la prévention des addictions auprès des jeunes.
Eh bien, on va revenir vers vous dans un instant. À côté de vous, il y a le deuxième Philippe, Philippe Enjolras, bonjour.
Bonjour Théo.
Alors, je rappelle, vous êtes chargé de communication de l'association Partageons la route, qui est basée, pas à Avignon, mais à Cavaillon. Hein.
C'est ça.
Alors, rapidement, justement, pour les auditeurs, Philippe, est-ce que vous pourriez présenter plus en détail l'association?
Oui, l'association cavaillonnaise Partageons la route est composée de bénévoles, qui sont en majorité des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière. Mais pas seulement, nous avons aussi toutes sortes de personnes, et des gens qui sont volontaires pour participer avec nous aux actions sur le terrain. Alors, nous agissons auprès des écoles, certaines institutions, sur demande, personnes âgées, etc. Sur certains salons, nous avons des stands de prévention, alors notamment le salon Motor Show Avignon. Généralement, c'est un petit rapport avec l'automobile, hein, toujours, pour qu'on soit dans le contexte. Et voilà, c'est principalement ce qu'on fait, mais on est vraiment sur demande, on agit à n'importe quel endroit.
Mmh. Alors, du coup, je vais poser la même question à vous, Philippe Henry, une petite présentation de votre parcours.
Oui, alors moi, je suis à l'heure actuelle en auto-entreprise, donc j'ai monté avec un numéro d'agrément de formateur en addictologie. Et du coup, je propose mes services au sein des entreprises. Puisqu'il y a des demandes qui sont, en tout cas, ou des besoins qui sont nécessaires sur le travail autour de la formation, de l'évaluation et d'orientation des personnes qui ont des problématiques de consommation, notamment d'alcool et de cocaïne. Mmh. Et puis, je projette aussi de travailler dans le secteur du handicap, puisque là aussi, auprès des personnes qui sont à mobilité réduite, on assiste à des problématiques de consommation de produits et de psychotropes, dont il est nécessaire aussi de se préoccuper. Et de faire de la formation, d'évaluation et de la consultation.
Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, le thème qu'on aborde, c'est les jeunes au volant. Alors justement, je m'adresse à vous, Philippe Enjolras. Est-ce que les jeunes, c'est eux qui sont les plus touchés par la mortalité routière?
Et malheureusement, l'insécurité routière, c'est la première cause de mortalité violente chez les jeunes de 15-25 ans, et quand on parle de jeunes, donc ceux qui ont accès début de carrière de conducteur. Le risque d'accident mortel est à son apogée, on dit. C'est les statistiques qui le disent, c'est 5 mois après l'apprentissage de la conduite, après la réussite du permis de conduire. C'est une population qu'on cible particulièrement parce que voilà, elle représente quand même 25% des tués sur la route. Donc c'est assez dramatique. En 2007, pardon, il y avait 571 personnes de cette tranche d'âge qui ont péri sur les routes.
Alors je crois que Philippe Henry, vous avez des statistiques spécialement dans le Vaucluse.
Nous sur le Vaucluse, on sait que depuis longtemps le Vaucluse est un département dangereux, où il y a effectivement de nombreux décès sur la route. On se demande pourquoi, mais ce que les chiffres montrent aussi, c'est que 9 cas sur 10, effectivement, les personnes ont consommé du cannabis, ou pour un tiers de l'alcool. Donc effectivement, il y a quelque chose à faire de ce côté-là.
Maintenant, vous, en tant qu'addictologue, est-ce que vous pensez que les jeunes, ils sont insouciants aujourd'hui quand ils prennent le volant pour la première fois?
Je pense que l'insouciance fait partie de la jeunesse, et tant mieux pour elle, puisque c'est une forte période aventureuse. Mais ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de psychotropes sur le marché, et que nos jeunes adultes font la fête aussi, et que la fête aujourd'hui, sans consommer d'alcool ou d'autres produits... C'est plus compliqué, j'ai envie de dire. Donc effectivement, les jeunes prennent la route parfois sous l'emprise de produits.
Parce que justement, vous, en tant que consultant, est-ce que vous en parlez de ces choses-là aux jeunes? Est-ce que vous en recevez d'abord des jeunes?
Alors moi, j'ai reçu beaucoup de jeunes et j'ai travaillé auprès des stages de sensibilisation, auprès des tribunaux de grande instance de Carpentras et d'Avignon. Mmh. Donc effectivement, il n'y a pas que les jeunes qui se font prendre au volant sous l'emprise de substances. Mais ce qui est clair, c'est que la prévention, au préalable, elle s'adresse aux plus jeunes. Mmh. Donc il y a tout intérêt, effectivement, par exemple, dans le cursus d'apprentissage du permis de conduire, il y a peut-être à mettre en place des volets de prévention autour de la consommation des produits et surtout de la prévention, c'est-à-dire consommer, oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais en revanche, la prévention s'adresse à tout le monde.
Alors, c'est dû à quoi ces problèmes ? C'est dû au téléphone, au manque de concentration ? C'est quoi le problème ?
On va dire que si vous multipliez les interactions avec vos SMS, la prise de cannabis, d'alcool, votre petite copine qui est magnifique à côté de vous, ou votre magnifique copain, ou les problèmes existentiels, les difficultés de travail, etc., on va dire votre esprit est plus ou moins occupé par tout un tas de choses, et que votre concentration au volant n'est plus la même. On va dire qu'elle subit des interférences.
Parce que justement, vous avez un point commun, Philippe, donc vous êtes consultant auprès des jeunes et pas que.
Oui.
Et vous, Philippe, également, vous faites de la prévention dans les écoles, dans les collèges, lycées, vous faites de la prévention avec les jeunes aussi.
C'est ça, tout à fait. Donc on leur rappelle un petit peu les contraintes humaines, on va dire les défauts qu'on a, c'est-à-dire qu'on a un temps de réaction qui est d'une seconde. Et à partir de là, on se déplace. Donc on fait, quand on exprime le déplacement, c'est un mètre à la seconde, c'est pas un kilomètre heure, parce que ça parle pas à beaucoup de personnes. Par contre, savoir qu'en une seconde, à 50 km/h, on fait 15 mètres. Et que si on consulte un SMS, on estime le temps à peu près à 5 secondes. Donc vous imaginez 5 fois 15 mètres, quoi, on parcourt sur la route, 60 mètres. C'est énorme, en ville, 50 km/h, c'est la vitesse autorisée. Alors, je ne parle pas à 80 km/h, c'est encore plus dramatique. Donc tout ça, on essaie de leur expliquer parce qu'on n'a pas forcément conscience. Hein. Quand on voit qu'on explique les distances de freinage, les gens nous disent... on leur fait déplacer un plot sur la route et on leur dit à 50 km/h, vous commencez à freiner à partir de maintenant. Ouais. Déposez-moi le pot plus loin, ils le déposent à une dizaine de mètres. Voilà. Mmh. Alors qu'en réalité, à 50, c'est 25 mètres. On tous, avec les voitures d'aujourd'hui, on n'a pas très conscience de ça. On a l'impression que quand on appuie sur l'appel de France, ça arrête de suite. Et voilà, c'est pour ça qu'on discute, on téléphone, on boit un peu d'alcool. Et tout ça, ça joue sur le temps de réaction.
Parce que l'idée, c'est pas de faire de la morale aux jeunes.
Pas du tout.
Vous n'êtes pas là pour ça. Hein.
Pas du tout, c'est toute la prévention, c'est de leur donner un petit peu de la connaissance pour qu'ils puissent en avoir conscience sans être parano, mais qu'ils se disent, tiens, finalement, ah ouais, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui nous disent, ben, on ne pensait pas. En permanence, on fait du renseignement en fait pour les préserver, on ne fait pas de morale à personne, hein, on a été jeunes et voilà, ce n'est pas du tout le but.
Alors je m'adresse à vous maintenant, Philippe Henry, est-ce que les jeunes ne sont pas influencés par leurs parents au niveau de la conduite ou même par leurs amis qui roulent à toute allure ?
On va dire qu'on est tous influencés par ses pairs en matière de sécurité ou en matière de prise de risque. En revanche, je rejoins ce que disait Philippe, c'est qu'effectivement, il y a un temps de ralentissement sur le système nerveux central lors de la prise de produits, même des speeds, comme on dit. C'est pas parce que la substance est destinée à accélérer le système cardiaque ou nerveux qui va accélérer les réflexes, ça n'a rien à voir. Donc on va dire qu'effectivement, toute prise de psychotropes, même des médicaments sur lesquels on fait peu d'études là-dessus, mais on sait quand même que la France, où les Français consomment des psychotropes, donc effectivement, l'ensemble des produits, plus la fatigue peut-être aussi, à un moment donné, interagissent sur nos réflexes. Donc, et effectivement, ce qu'on disait un petit peu au préalable avant l'émission, c'est que beaucoup d'accidents arrivent en ligne droite, en fait, lorsque les personnes somnolent. C'est-à-dire tant qu'elles sont effectivement sollicitées par des virages, des feux rouges ou une animation de ville, etc., ça va pas trop mal. Mais dès qu'effectivement qu'on s'éloigne des sentiers battus, bah, finalement, la somnolence arrive, la fatigue arrive et c'est le risque.
Vous êtes d'accord, Philippe Angeloras, de ce que dit justement Philippe Henry, que c'est dans les autoroutes où les gens, il y a le plus de somnolence ?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est statistique, en fait. Hein, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en réalité, la majorité des accidents graves, mortels, se passent en ligne droite par beau temps. Donc ça paraît paradoxal, on pourrait croire que c'est la nuit quand il pleut dans les courbes. En fait, non, parce que, comme disait Philippe, c'est qu'on est attentif. C'est un problème de somnolence. Alors, effectivement, la prise d'alcool et de psychotropes, ça augmente ce phénomène-là, quoi, de somnolence. Donc du coup, et en plus, quand on est sur ligne droite, on a plus tendance à se distraire, à boire, à regarder le téléphone, voilà. C'est pour ça que ça, c'est des chiffres, en fait. Hein, on peut pas.
Bien sûr.
C'est pas une vue de l'esprit, quoi. C'est vrai qu'a priori, on pourrait penser qu'une ligne droite par beau temps, c'est pas dangereux.
Et en plus, quand il y a une ligne droite, on a tendance à rouler beaucoup plus vite aussi. On se permet d'aller plus vite
aussi,
au volant.
Hein. C'est un élément qui fait que la gravité des chocs est beaucoup plus importante. Hein.
Malheureusement, le cannabis, ça aussi, ça a beaucoup d'influence sur les jeunes au niveau de la conduite. Philippe Henry, vous n'allez pas me dire le contraire, je pense.
Non, la prise de cannabis, le THC notamment, notamment le tétrahydrocannabinol delta 9, vient effectivement créer une forme de ralentissement du système nerveux central. Donc effectivement, là aussi, il vient venir influencer les réflexes ou la mémoire, ou aussi développer chez certains individus des prises de conscience, des prises de risque, plus ou moins bien évaluées. Donc là aussi, l'impression que peut procurer la prise de THC, ben, ce sont des formes de toute-puissance, de désir de vaincre la vitesse, de vaincre peut-être un virage sur lequel on avait envie de passer un peu plus fort, etc. Donc le cannabis vient lui aussi perturber le comportement du conducteur et vient interagir effectivement sur ses capacités à négocier le danger ou la prise de risque sur la route.
Alors on va faire une petite pause musicale, on va revenir dans un instant pour la suite de cette émission Sur ma route avec Philippe Henry qui est avec nous et Philippe Enjolras. À tout de suite sur RTVFM.
Baby,
Sur ma route, sur RTV FM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Et bien voilà, vous êtes de retour dans l'émission Sur ma route, l'émission consacrée à la sécurité routière, toujours avec Philippe Henry qui est toujours là. Ça va toujours ?
Oui, rebonjour à tous.
Et bien sûr avec Philippe Enjolras qui est toujours là aussi parmi nous.
Toujours en forme, merci.
Bonjour. Alors, je tiens à le préciser que voilà, Philippe Henry, vous êtes consultant et formateur pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. On a parlé bien sûr donc des jeunes au volant puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Philippe Enjolras, il y a effectivement la vitesse, l'alcool et du coup Philippe Henry. Au niveau de l'alcool ou même de la drogue, il y a plusieurs effets. Vous voulez nous en parler ?
Oui, je voulais parler un petit peu des produits qu'on trouve à l'heure actuelle sur le marché, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que outre l'alcool, qui est un phénomène récurrent depuis de nombreuses années, de plus en plus, il y a du cannabis sur le territoire en vente sous-jacente, j'ai envie de dire, mais pas que. On assiste à une montée de la cocaïne, notamment dans le secteur professionnel des métiers de la route. Donc effectivement, la cocaïne, c'est un puissant excitant, j'ai envie de dire, qui permet de faire des heures supplémentaires nocturnes notamment. Et du coup, certains avec les pressions économiques ou les pressions... des employeurs, etc. Mais il y a des gens qui essayent de consommer des petits produits qui leur permettent de conduire plus longtemps et comment dirais-je, économiser leur fatigue au fil des kilomètres.
Parce que le problème de tout ça, c'est que quand on conduit et qu'on a pris ces médicaments, malheureusement, ou cannabis ou autre, on a le champ visuel qui est réduit quand on conduit.
Oui, effectivement, ça c'est bien connu, que l'interaction effectivement au niveau du système visuel est important, même parfois des hallucinations, on peut retrouver ça sous l'emprise de cannabis ou de LSD. C'est-à-dire, c'est pas seulement une déformation des distances, mais c'est aussi des éléments qui sont perturbants. Moi j'ai rencontré des jeunes qui me disaient qu'ils s'arrêtaient parce qu'ils voyaient passer un troupeau de zébus devant la voiture. Et c'était effectivement une hallucination collective. C'est que les trois personnes avaient consommé du LSD et elles ont vécu les mêmes expériences. C'est quand même assez terrible. D'autant que les zébus ne courent pas les rues.
C'est sûr, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais imaginons, il y a quelqu'un qui prend donc du LSD ou de la cocaïne. Est-ce qu'il peut être agressif au volant aussi ?
Alors, comme je disais un petit peu sur le set précédemment, effectivement, il y a des produits qui vont procurer des formes de toute-puissance chez certaines personnes. Donc effectivement, on parle de désinhibition, c'est-à-dire que la personne va se sentir plus forte, plus intelligente, peut-être. Et c'est au détriment, effectivement, de sa prise de risque, c'est-à-dire qu'il va se permettre de faire des actions qu'il aurait mis sous autocontrôle auparavant. Et que du coup, là, il y a un véritable lâcher-prise qui va mettre en exergue, alors soit pour faire le beau devant ses copains ou ses copines dans le véhicule, soit pour se prouver à lui-même qu'il est plus fort. On retrouve ça, moi je connais des gens qui font du sport automobile, notamment du course de côte, et il y en a certains qui prennent une dose d'alcool avant de prendre le volant, et ils l'expliquent très bien. Hein. Alors c'est pas une dose qui va les mettre en état d'ébriété, hein, ça n'a rien à voir, c'est simplement la chaleur que va procurer l'alcool sur les quelques minutes de la montée de course, ils le savent très bien, va les désinhiber, et peut-être où il passait à 123 km/h, mais il va passer à 130. Et du coup, grappiller quelques secondes. Dans la prévention, il faut aborder ces petits outillages qui effectivement sont parfois cachés ou tabous ou dans l'inconscience collective. C'est-à-dire que les produits nous servent aussi dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, et ils sont pas d'hier. Donc effectivement, si on prend l'alcool, ce sont des produits qu'on consomme depuis longtemps pour faire la fête, pour faire des baptêmes, pour des mariages, etc. Donc ce sont avant tout des produits à vocation de rencontres sociales ou d'amitié, etc. Et les jeunes ne se rendent pas toujours compte que, effectivement, au-delà de la rencontre, de la danse, de l'aspect festif des choses, et bien effectivement, prendre la route, ça peut être un danger.
Maintenant, Philippe Enjolras, je me tourne à nouveau vers vous. Alors pourquoi, c'est la question qu'on se pose, les jeunes conducteurs, ils sont plus susceptibles de créer des accidents sur la route ?
Alors parce que c'est pas nouveau, quand on est jeune, on sort beaucoup la nuit. Donc déjà, c'est un premier risque supplémentaire. Hein. Les accidents mortels se passent souvent la nuit. Ils ont ce souci-là. Ils ont de l'inexpérience, parce qu'on parle des 15, 18, 25 ans. Donc l'expérience, c'est énorme. Comme je vous disais tout à l'heure, les 5 premiers mois, ils sont plus sensibles. On a parlé de la drogue et de l'alcool. Bon, souvent, la nuit, voilà, c'est festif. Donc on consomme des produits qui réduisent aussi les capacités à conduire, on va dire, qui jouent sur le champ visuel. Voilà, qui réduisent le champ visuel. Déjà, en dehors de la vitesse, il y a la prise de produits comme ça, alcool ou drogue, ça réduit le champ visuel. Donc la nuit, on voit moins bien. Le relief, la profondeur, tout ça. Ensuite, il y a la fatigue, parce que bon, quand on sort la nuit, on rentre à des heures où on devrait dormir, théoriquement. Donc le corps humain est sous le coup de la fatigue. Donc toutes ces choses-là font que voilà, on paye ce lourd tribut de par tous ces éléments-là, en fait. Le fait d'être jeune, c'est triste. Mais...
Oui, Philippe Henry.
Un autre élément aussi, c'est que toute prise de psychotrope vient effectivement pomper de l'énergie dans le corps.
Alors psychotrope, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est ?
Psychotrope, c'est un ensemble de molécules qui va venir produire un effet dans le cerveau.
D'accord.
Hein, c'est un psychotrope, donc des molécules qui vont venir perturber le fonctionnement électrique et chimique du cerveau. Donc, souvent on ne se rend pas compte de ça, mais effectivement lorsqu'une personne consomme, j'ai envie de dire, plus le psychotrope est intense, plus la fatigue de la métabolisation est importante. Donc des jeunes qui sont polyconsommateurs, si je sais pas, en soirée ils consomment plusieurs doses d'alcool, s'ils consomment du tabac, s'ils consomment du cannabis, s'ils consomment d'autres produits, des extasies, etc., il procure une fatigue supplémentaire à son organisme dont il ne se rend pas forcément compte, mais il sait, en général de manière inconsciente, comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une personne, en général les personnes savent que s'ils boivent une dose d'alcool avec une dose de caféine, ça le fait. Je prends l'exemple du whisky coca, par exemple. Hein, le whisky, c'est de l'alcool, il va ralentir le système nerveux, mais le coca, il est sucré. Notre cerveau est la goulue du sucre, j'ai envie de dire, et surtout la caféine. Donc, il prend un excitant avec un calmant. Donc, il crée une alchimie pour essayer de tenir le coup plus longtemps. Et c'est pareil s'il prend de la cocaïne. Donc, la cocaïne, c'est un puissant stimulant. Mais pour calmer les effets de la stimulation de la cocaïne, il va prendre du cannabis. Mais toutes ces interactions de psychotropes dans l'organisme créent une fatigue supplémentaire. Donc, si en plus il est tard, que la soirée était longue, fastueuse, on a bien mangé, on a bien arrosé, on a bien fumé, effectivement, ça démultiplie une fois de plus les facteurs de risque.
Et Philippe Enjolras, au niveau de la loi, avant il y avait 0,5 grammes, je crois que depuis ça a chuté.
Au niveau de la loi, pour l'instant, le cannabis ou la drogue en général et l'alcool, c'est les mêmes sanctions. Hein. C'est toujours 6 points de retrait sur le permis. Et après, ça peut aller beaucoup plus loin en cas d'accident et accident mortel. Savoir que les assurances ne couvrent plus à partir du moment où on est positif. C'est quand même, ça peut avoir des lourdes conséquences pour la vie future. Alors juste, je vous rappelais que à 0,5, ça multiplie le risque par 2. À 0,8, on dit par 10. Et à 1 gramme 2, 35. Donc c'est quand même parlant. Hein, ça multiplie les risques par 35. Donc voilà. Après, au niveau sanctions, ça peut aller, bon, bien sûr, retrait de permis, 6 points, etc. Mais aussi, ça peut aller au pénal. Hein, parce que quand il y a des blessures, ben, on se retrouve au tribunal, voire en prison. Donc pour un jeune de 18 ans, c'est mal commencé sa carrière.
C'est sûr. Ouais.
Juste pour côté festif, quoi. Hein. Et après, c'est un choix à faire. C'est juste une prise de conscience. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est ça, en fait. C'est de prendre conscience des conséquences que ça peut avoir sur la vie future. Pour une soirée, gâcher sa vie, c'est un peu dommage.
Et puis pour la vie de famille, Philippe Henry, c'est une catastrophe pour les jeunes qui boivent sans arrêt, qui se droguent sans arrêt, c'est vraiment une catastrophe.
Alors effectivement, si on parle du point de vue systémique, la famille systémique, etc., effectivement, le consommateur ou la personne dépendante à des psychotropes, effectivement, elle n'est pas seule. Et souvent, l'entourage est en souffrance, les parents, les frères et sœurs, les cousins. Et bien souvent, ils sont en difficulté aussi pour gérer le problème à la place de la personne, mais il faut interagir quand même entre eux et tout a une fonction. En tout cas, la personne qui consomme, en général, elle vient parler à une personne désignée et effectivement cette personne désignée en général n'a pas les armes pour l'aider. Donc on est là, du coup on peut faire appel effectivement à un professionnel de la santé, un médecin ou encore un consultant addicto ou un professionnel qui effectivement saura prendre de la distance par rapport à la problématique et permettre à la personne de s'exprimer et d'être dans la dimension de l'émotion, j'ai envie de dire, sans prendre de risques et effectivement pouvoir changer son comportement.
Alors on l'a dit, donc les risques d'accident, il y a notamment donc effectivement malheureusement l'alcool, la drogue, mais la fatigue, c'est aussi un risque d'accident, hein, Philippe Enjolras.
Oui, très important. D'ailleurs, sur l'autoroute, c'est 18% des accidents mortels. Donc c'est un facteur qu'on prend en compte, notamment quand on fait des rendez-vous pédagogiques. Ça se passe quand les personnes font la conduite accompagnée. Mmh. Voilà, on a des rendez-vous pédagogiques obligatoires et on doit aborder certains sujets. Et la fatigue en fait partie. La fatigue des assurances, l'alcool, bien sûr. Mmh. Voilà. La vitesse aussi, également. Donc, c'est des thèmes imposés. Donc, normalement, on doit en parler, à condition, bien sûr, de se renseigner un petit peu. Hein. On n'en parle pas souvent, en réalité, hein, parce que les gens pensent qu'ils peuvent conduire 8 heures d'un coup. C'est pour ça, les 2 heures d'arrêt, enfin, toutes les 2 heures s'arrêter, c'est justement pour lutter contre ça. Et on n'a pas souvent conscience qu'on est fatigué, en fait. Il y a des signes. Maintenant, il y a des voitures modernes qui le signalent hein, aux conducteurs. Mais les gens, souvent, ils font 800 km sans s'arrêter, quoi. Donc surtout les professionnels de la route.
Bien sûr, Philippe Henry, on le rappelle, vous êtes addictologue, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Addictologue, et donc malheureusement, il y a aussi le côté jeu vidéo, où des fois, quand on va jouer dans un jeu, on va se permettre de rouler à toute allure et on va le faire dans la réalité. Alors, est-ce que les jeux vidéo, ils jouent un rôle aussi de ce point de vue-là ?
J'espère que les jeunes font une mise à distance entre le jeu vidéo et la réalité routière. Mais il se peut aussi qu'on confonde les deux d'un point de vue, comme je rappelais tout à l'heure, de la toute-puissance. Si effectivement dans le jeu, je me suis entraîné à régler ma voiture dans tel état pour passer ce virage dans telle condition, pourquoi pas hein. Puisqu'effectivement, le psychotrope peut venir développer cette forme d'insouciance ou d'incompétence dans le monde réel de manière complètement irrationnelle. Je voudrais revenir peut-être sur un point aussi important, c'est la métabolisation des produits. C'est qu'effectivement, une personne qui prend un verre d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool, une dose standard de bar, avec une métabolisation normale, un foie normal en bonne santé, c'est une heure. C'est-à-dire que la personne qui a consommé son petit cognac ou sa coupe de champagne ou sa bière, au bout d'une heure, elle peut reprendre le volant et circuler tranquillement. En revanche, si elle prend du cannabis, le cannabis, il n'y a pas de dose labellisée, le THC se mesure en pourcentage. Si une personne consomme du THC, les effets peuvent durer plus de 20 heures.
Ah oui.
Donc, il y a des effets ressentis, effectivement, qui vont apparaître dans les premières minutes de la prise. Ensuite, les effets s'estompent comme tout psychotrope. Mais ensuite, même si la personne ne se sent pas dans les effets du produit, son sang transporte des molécules et son cerveau est altéré par l'activité de la molécule. Si je prends de la cocaïne, par exemple, ou du LSD ou des extasies qui sont consommés, je le rappelle, dans de nombreux secteurs professionnels, les effets peuvent durer 72 heures aussi. C'est-à-dire que la personne elle peut se sentir effectivement sous l'effet, faire une pause, comme disait Philippe sur l'autoroute, et se dire « je me calme, là je suis en train de voir des zébus qui traversent, c'est plus bon ». Donc je fais une petite pause, et effectivement, au moment, quelques heures après, il reprend le volant, mais même s'il ne voit plus de zébus, il est toujours sous l'influence des produits. Ça veut dire que si on lui fait une prise de sang ou une analyse d'urine, ben effectivement, on va découvrir qu'il est positif. Et du coup, s'il y a un accident ou un contrôle, ben il risque de perdre son boulot, son permis et tout le fratras judiciaire qui court derrière.
Alors, on va prendre un cas concret. Imaginons, on est en soirée entre amis. On imagine qu'on est dans ce cas-là. Comment on peut faire pour retenir la personne qui a bu ? On appelle un taxi, on lui dit de boire du café, de prendre un sucre, comment on peut faire ?
Alors, le café, l'eau, les soupes, les potions magiques, ça ne marche pas. Ça, il faut bien se le dire.
Ça, c'est faux, ça, c'est ces histoires de boire de l'eau pour que ça aille
ouais,
mieux.
Le café salé pour se rendre malade et tout ça, c'est n'importe quoi. Les meilleures conditions, c'est effectivement de tenir la personne au chaud, d'abord. Hein, c'est éviter qu'elle sorte, se perde dans la nature ou qu'elle prenne un coup de froid cet hiver qui arrive, etc. Donc on maintient la personne au chaud, on ne l'allonge pas, on ne l'enferme pas dans une chambre, hein, on essaye de lui parler, de la rassurer, de lui parler avec des mots doux, et de veiller justement qu'elle ne s'endorme pas trop, ou que si elle s'endorme, de la mettre en position latérale de sécurité, mais en tout cas de la surveiller constamment, donc on ne la laisse pas seule, on la met au chaud, et effectivement, on met tous les moyens en œuvre pour éviter qu'elle prenne la voiture ou qu'elle se mette derrière le guidon de moto ou derrière un volant de voiture. Donc on la raccompagne, on trouve un copilote, on lui trouve un pilote ou un bus ou un accompagnateur ou une personne de la famille pour le mettre au chaud, quoi.
Chers invités, je tiens à le dire, on va faire une nouvelle pause musicale et puis on va revenir dans un instant pour parler encore de ce sujet, les jeunes au volant, avec en plus de ça des questions d'auditeurs. Donc on revient dans un instant avec Philippe Henry et avec Philippe Enjolras pour la dernière partie de l'émission Sur ma route. À tout de suite. We'll be right back.
tu balances davantage. Et pour toi, oh my love, crois en moi. Je te sens venir du fond de moi. Tu m'agites, je m'excite dans tes bras. Combien de fois j'ai pensé à toi. Ton odeur, ta froideur, laissons voir.
Sur RTVFM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Eh bien, bienvenue à vous tous et toutes sur le plateau de RTVFM pour l'émission Sur ma route, une émission bien sûr réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse. Et aujourd'hui, nos invités sont Philippe Henry qui est consultant et formateur sur Avignon et Philippe Enjolras qui est bien sûr chargé de communication, depuis récemment d'ailleurs, chargé de communication à l'association Cavaillonnaise Partageons la route. Heureusement, ce n'est pas tous les jeunes qui sont des fous au volant quand même, Philippe Enjolras.
Non, bien sûr. De toute façon, quand on parle de mortalité, on inclut aussi jusqu'à 35 ans, en fait. Hein. C'est eux qui payent le plus leur tribut. C'est de 18 à 35. C'est pas... L'alcool, c'est pareil. Hein. Ça ne concerne pas que jusqu'à 25 ans. Ça serait trop simple. Hein. Voilà. C'est jusqu'à 35 ans, en fait, qu'on est le plus victime d'accidents de la route. De 18 à 35. Après, ça se calme un peu. Hein. Au-delà, après, il y a les 64 ans, 65 ans, même 25, 64, qui, bon, c'est beaucoup plus... Je peux vous donner les chiffres, si vous voulez.
Allez-y, ouais.
Ouais, donc les 18-24, c'est 571, mortalité. Hein. Les 25-64, c'est 1812, hein, tués sur la route. C'est là, et après, ça diminue à 865, les 65 ans et plus. Donc voilà, on cible, si vous voulez, nos actions. En fonction de ça... On n'a pas le même message avec les personnes de 65 ans que celles de 25 ans, etc. On s'adapte à ces chiffres-là, c'est ce qui nous permet de cibler un petit peu. Bon, les personnes âgées, c'est plutôt les problèmes de priorité, hein, parce que voilà, ils ont moins de facultés pour tourner la tête. C'est pas qu'ils ont les moins de réflexes, parce que le temps de réaction, en fait, il est à peu près pareil entre 7 ans et 77 ans, on dit.
Ah d'accord.
Donc on a le même temps de réaction, oui, ça joue pas beaucoup. Après, c'est la partie mobile. Hein. Quand on est âgé, on est moins mobile. Donc c'est ça qui fait la différence, en fait, où on a un peu plus de risques. Mais c'est pas eux qui représentent le plus de danger, en fait, sur la route. Malgré ce qu'on pourrait croire.
Ouais, c'est vrai, c'est étonnant.
C'est ça.
Bien sûr, on l'a dit, il y a plusieurs facteurs, donc l'alcool, la drogue, la fatigue, mais pas mettre la ceinture, ça aussi c'est un risque d'accident, hein. Que ce soit conducteur ou passager d'ailleurs.
Oui, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne s'attachent pas en voiture. Hein. Je crois que c'est 23%, un truc comme ça, un chiffre assez élevé, qui meurt à cause de ça en fait.
Parce qu'il y a une loi qui est passée il y a quelques années pour rendre obligatoire la ceinture.
Oui, il y a déjà longtemps. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que c'est les passagers arrière. À l'avant, les gens s'attachent. Ouais, ça, il n'y a pas trop de problèmes. Mais à l'arrière, étant donné que le conducteur est responsable uniquement pour les personnes qui ne sont pas majeures, donc il s'en fout un peu ce qui se passe derrière. Sauf que, en cas d'accident, il peut mourir parce que justement une personne n'est pas attachée derrière. Savoir que le poids est multiplié par 10 à 50 km/h. Donc la personne qui est à l'arrière qui n'est pas attachée, elle va traverser la voiture et elle peut. Voilà. Donc il faut penser à ça, il ne faut pas penser que à la responsabilité en réalité. Il y a aussi le danger pour le conducteur.
Je vois Philippe Henry, vous dites oui de la tête, vous êtes d'accord ?
Oui, j'ai un exemple terrible comme ça. Effectivement, c'est l'enfant traverse l'habitacle et a tué le conducteur et c'était sa mère.
Ah ouais.
Donc effectivement, bon, on n'est pas dans les images trash, on ne va pas faire du trash à la radio.
Hein. Non, non.
Mais parfois aussi la prévention a besoin d'exemples concrets, quoi.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'on a plus de risques, nouvelle question que je vous pose, est-ce qu'on a plus de risques d'avoir un accident en voiture qu'en scooter ?
Alors, c'est très simple. Hein. En deux roues, le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 10. Donc, c'est considérable. Hein. C'est pas deux fois plus. Quoi.
Ouais.
Donc, 10, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Bon, ça s'explique parce qu'on n'a pas de carrosserie, bien sûr. Sur un scooter, on est beaucoup plus vulnérable. Voilà, c'est pas le casque qui fait quoi que ce soit. Plus on est moins visible, on est moins rapide, donc on peut pas trop sortir d'une situation compliquée. Très très dangereux. Oui.
Alors souvent, il y a ceux qui sont en voiture qui se plaignent à cause des vélos. Ils disent les vélos, c'est à cause d'eux qu'ils ralentissent et c'est à cause d'eux qu'il y a des accidents. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Il y a un peu des deux. Alors on va dire que normalement, c'est l'usager le plus vulnérable qui est prioritaire. Quoi qu'il en soit, ça fait part du piéton, du cycliste, hein, voilà. Et bien souvent, on ne fait pas attention, effectivement. Alors, il faut savoir que le problème d'un vélo, c'est que ça change de trajectoire très vite. Donc déjà, il y a les distances qui, à mon sens, ne sont pas suffisantes. Ils sont 1 mètre en ville, c'est très peu, et 1 m50 hors agglomération. Sauf que 1 m50, si on passe à 80 km/h à côté d'un vélo, vous imaginez le déplacement d'air. Donc voilà. À ce sujet, il y a une règle qui est apparue il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est en 2015, que personne ne connaît bien. Parce qu'on n'a pas fait de publicité, c'est qu'autrefois, on n'avait pas le droit de franchir une ligne continue pour dépasser un cycliste. Mais depuis 2015, on peut le faire. C'est autorisé, un cycliste ou un piéton.
D'accord.
Voilà, donc il ne faut pas hésiter à le faire, bien sûr. Hein. Plutôt que de frôler un cycliste, il ne faut pas aller sur la ligne continue. C'est autorisé, il n'y a aucun souci. Mais la plupart des personnes, quand je pars sur mes stands, dans mes actions de ça, on me dit « Ah bon, les personnes sont étonnées. » Alors que ça date de 3 ans. On n'a pas fait beaucoup de publicité et c'est un élément important pour les cyclistes, je pense.
Alors maintenant, il y a une question d'un auditeur qui s'appelle Maxime, qui habite à Carpentras. Il vous pose la question que maintenant, vu qu'il y a eu la baisse des 80 km/h, ça a été fait en début d'année, il hésite à prendre une voiture. Alors, est-ce que vous lui conseillez de prendre une voiture, du coup, Philippe Angeloras ?
Oui, bien sûr, parce que en fait, entre 80 et 90... Sur une courte distance, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que sur 1000 km, c'est quelque chose comme 40 minutes ou 4 heures même, je crois. Donc c'est plutôt 4 heures. Ouais. Donc c'est dérisoire le temps qu'on gagne. Alors sur une courte distance en ville, il faut savoir que si, ne serait-ce qu'en ville, si on roule à 60 au lieu de 50, sur 10 km, on économise 4 minutes. Donc franchement, à 80, il peut faire l'expérience quand il veut. Il perdra pas de temps. Et par contre, il préservera ses points de permis. Et effectivement, il aura plus de temps pour réagir parce qu'à 80, c'est quand même physique. Donc, 3 x 8, 24 mètres à la seconde à 90, c'est presque 30 mètres. Donc voilà, il aura plus de temps pour anticiper sur la route. Et on y, voilà, je ne vois pas le gain à part. Alors, s'il veut faire de la vitesse, s'il veut s'amuser, il y a des circuits ou faire du karting. Voilà, on a plus de plaisir. Sur la route, aujourd'hui, on peut pas. Il y a trop de circulation. On ne peut pas se permettre de gagner du temps. Si on est en retard, on est en retard. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de gain de temps sur la route. C'est pas possible.
Après, on a beaucoup parlé, donc encore une fois, en début d'année, des fameux 80 km/h. Quelques mois plus tard, est-ce que l'effet il est bien réel ? Est-ce que ça a baissé ? Ou est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus, Philippe ?
C'est trop difficile pour. Les statistiques ne permettent pas encore de définir cela. Il est fort probable que, si vous voulez, la mortalité baisse depuis des années. Donc elle va certainement baisser. Alors après, l'attribuer aux 80 km/h, pourquoi pas ? certainement que ça va y contribuer, parce que c'est un ensemble de facteurs en réalité. Hein. Mmh. On sait que la mortalité baisse, sauf entre 2015 et 2016, où il y a une forte hausse, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a tout qui joue, la météo, etc. Mmh. Donc les 80 ont certainement un effet déjà physique. Mmh. Savoir que même si ce n'est pas à 100% respecté, la vitesse moyenne, en revanche, va diminuer. Donc il y aura certainement un effet positif, mais il faut attendre encore au moins une bonne année. Quoi.
Alors maintenant, question d'une nouvelle auditrice de Marie de Pernay-Fontaine. Elle vous demande s'il y a plus d'accidents la nuit que le jour.
Oui, il y en a beaucoup plus la nuit et en plus, ils sont plus mortels. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'acuité visuelle. On perd énormément et la conduite, c'est 90% de la conduite passe par la vue. Donc à partir de là, c'est un cocktail. Voilà, la nuit, c'est sûr et certain qu'il y a plus d'accidents. Et plus dangereux.
Bien sûr, aussi, il y a le facteur de ne pas mettre son clignotant. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est un facteur d'accident aussi.
Et oui, et c'est sanctionné de 3 points. Donc, c'est vrai que c'est de moins en moins utilisé, malheureusement. Mais c'est le seul moyen qu'on a de communiquer, en fait. Un des moyens qu'on a de communiquer avec les autres usagers. Bon, le klaxon ne s'utilise plus beaucoup. L'appel lumineux, ça peut s'utiliser, mais c'est moins évident. Par contre, la seule façon de marquer ses intentions, c'est les clignotants. On n'a pas d'autre moyen de communication. On ne se parle pas d'un automobiliste à un autre. Et c'est dommage que ça ne s'utilise pas du tout. Surtout, ce n'est pas sanctionné. Donc, je pense que c'est ça qui entraîne ce phénomène. C'est très pénible pour tout le monde, d'ailleurs.
Philippe-Henri, peut-être vous voulez réagir à ce que vient de dire Philippe Enjolras.
Ouais, j'ai envie de dire que les conducteurs, maintenant, communiquent par voie Wi-Fi ou Internet. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui, effectivement, au feu rouge ou à d'autres arrêts ou d'autres vitesses réduites, consultent leur téléphone. Envoyer des SMS, etc., ou programment encore leur GPS voiture. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup plus d'accidents légers, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, notamment des piétons qui se font renverser de manière à cause de l'inattention des conducteurs ou parce qu'ils sont perturbés par d'autres informations, le téléphone qui sonne ou le SMS qui vient de vibrer dans la poche, etc. Donc, il y a des nouveaux risques qui apparaissent, effectivement.
Alors, on n'a pas parlé, Philippe Enjolras, mais est-ce que fumer au volant, on peut avoir une amende ? Il y a une loi qui dit quelque chose là-dessus ?
Mais normalement, quand on conduit, on est censé avoir accès aux commandes tout le temps. Donc, pour fumer, il faut allumer la cigarette. Donc, à ce moment-là, on est répréhensible, effectivement. On ne doit pas boire non plus, c'est interdit par le code de la route, pas manger. Voilà. Ça nécessite beaucoup de sens, en fait, la conduite, en dehors de la vue. Donc il sera disponible à 100% pour ça.
La musique, par exemple. Moi, j'habite dans le centre-ville d'Avignon. Et effectivement, les petits A en rouge derrière les voitures, je les appelle les auditoriums et pas les apprentis. Donc effectivement, là, ils ont la musique à fond. Donc, ils n'entendent pas la machine, le ronronnement du moteur. Ils n'entendent pas si ça freine ou si ça klaxonne derrière ou sur les côtés, etc. Donc, il y a effectivement les nouvelles technologies qui apparaissent dans les véhicules, qui sont effectivement extrêmement intéressants, passionnants, mais qui viennent là aussi de plus en plus perturber l'attention des conducteurs et surtout des jeunes, puisqu'ils développent énormément de compétences autour de ces outils. Quoi.
Alors en règle générale, le week-end pour les jeunes, c'est souvent synonyme de sortie et puis de fête aussi. Et donc à ce moment-là, c'est là où les accidents explosent, Philippe.
Oui, bien sûr, parce que on fait plus la fête, donc on consomme de l'alcool, comme on a dit tout à l'heure, de la drogue. Mais c'est pas. C'est surtout le samedi soir quand on parle du week-end.
Ouais, c'est
pas,
c'est ça, ouais.
Ouais, principalement. C'est là que l'accidentalité se produit effectivement le week-end.
Juste un mot sur, par exemple, les universitaires, etc. Les fêtes commencent le jeudi soir.
Ah ouais.
Donc, effectivement, il y a l'approche du week-end, du samedi, un peu des anciens, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi les fêtes universitaires où, effectivement, comme à Avignon, je connais assez bien Avignon pour y avoir travaillé un certain nombre d'années. Les fêtes, c'est jeudi soir. Donc effectivement, alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a des jeunes qui ont des vertus. Hein. Tous les jeunes ne se défoncent pas aux produits et n'essayent pas de défoncer des murs avec leur voiture ou leur moto. Donc il y a du travail aussi à faire avec ces étudiants pour effectivement permettre la communication entre eux, former des jeunes acteurs. Ça se fait. Hein. Donc des acteurs qui effectivement participent aux fêtes, qui ont le même âge. Et qui effectivement outillent leurs petits copains, petites copines sur des outils de prévention, distribution d'alcotest, distribution de tests. Maintenant, les nouveaux tests salivaires ou urinaires qui ne sont pas très chers en pharmacie, qui détectent jusqu'à une douzaine de produits psychotropes interdits par la loi, par exemple. Donc, ce n'est pas inintéressant de faire un petit contrôle aussi avant de prendre la route ou rentrer chez soi pour aller se coucher. Mmh. Donc il y a des petits outils effectivement de repère qui peuvent effectivement permettre une réduction de prise de risque.
Alors on arrive bientôt au terme de cette émission. Ben, peut-être Philippe Bonjouras, le mot de la fin.
Oui, comme je voulais dire, il faut être positif quand même parce que bon, la mortalité baisse chez les jeunes. Hein, on reste toujours sur les jeunes et la conduite. Donc 18-24 ans, les chiffres l'attestent. Hein, entre 2000-2017, on est à moins 67%. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. Mmh. Tout ce qu'on fait, c'est pas. Je pense que les nouvelles générations commencent à prendre conscience de ça. Hein, ils font des fêtes, mais bon, ils appliquent ce qu'on leur préconise, c'est-à-dire de ne pas rentrer, de dormir sur place, ou alors désigner une personne qui va conduire et qui ne participe pas trop à la fête. Voilà, tout ça rentre dans les mœurs, je dirais. Donc du coup, il ne faut pas relâcher la pression, parce que les nouveaux arrivants, ben, il faut aussi les prévenir. La prévention, il faudra toujours en faire, mais ça a des résultats, donc c'est encourageant quand même.
Philippe Henry, pareil, même question, le mot de la fin.
J'ai envie de dire, plus on a d'informations, plus on a de connaissances, plus on développe de compétences. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Les sages le savent très bien. Donc effectivement, il faut faire confiance aux jeunes et vivre la jeunesse. Et il faut qu'elle vive, mais il ne faut pas qu'elle meure trop tôt non plus. Donc faire beaucoup d'informations et de communication. Et moi, j'ai un principe de base aussi, c'est la responsabilisation. Donc effectivement, lorsqu'on consomme un produit, lorsqu'on prend sa voiture, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on décide de faire un voyage, on prend les mesures nécessaires. On prend un passeport, on réserve ses billets d'avion, on gère une voiture, c'est pareil. On gère sa voiture, la qualité de la voiture, les pneus, les amortisseurs, etc. Et puis au niveau des produits, c'est pareil. Si on boit de l'alcool, on sait que c'est à peu près 3 doses maximum pour un garçon et puis 2 doses et demie pour une femme, parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Et puis si on dépasse ces limites-là, eh ben, on est positif, on multiplie les risques. Donc si on est un peu responsable de sa vie, un peu responsable de la vie du compagnon, de la compagne, eh bien, on s'autorise à prendre des mesures nécessaires pour éviter des accidents mortels.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission sur ma route. Philippe Henry, je rappelle, vous êtes consultant et formateur ADAN Addiction sur Avignon. Et puis, si on veut vous contacter, on va directement sur votre site internet.
Alors, j'ai pas de site internet à l'heure actuelle, mais on peut me téléphoner sur mon portable au 06 95 74 34 13. Je donne du conseil, aussi du consulting par téléphone.
En tout cas, merci d'être venu.
Merci
ici
à vous,
sur
RTVFM. RTVFM.
Mais de rien, avec plaisir. Et puis, merci encore une fois, Philippe Enjolras, d'être venu ici dans les studios que vous connaissez bien maintenant, les studios d'RTVFM. Pareil, pour vous contacter, un numéro de téléphone, un mail
Sur Internet, on a un site, c'est Partageons la route. Il y a toutes nos actions, toutes les coordonnées pour nous joindre. Pas de problème avec notre site.
D'accord. Bon, en tout cas, merci encore une fois à vous deux d'avoir participé à cette émission. Et puis merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve une prochaine fois pour une toute nouvelle émission de Sur ma route. À bientôt.
RTVFM vous a présenté l'émission Sur ma route, réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse.